Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Vous pouvez, si vous souhaitez m'aider à diffuser plus largement ce podcast, eh bien, nous laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et un avis, ce qui nous aide à le faire connaître davantage. J'en profite pour remercier un de nos auditeurs, Maxime Ex-Comstage, qui nous dit « Je vous remercie pour ces podcasts réalisés sur le thème du risque de requalification. Vos articles sont concis, précis et agréables à écouter. Ils m'ont vraiment aidé à ouvrir ma réflexion sur le sujet. » Eh bien, faites comme Maxime, prenez juste quelques minutes pour laisser un avis sur l'appli Apple Podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Sylvia Bravard-Meunier. Sylvia est experte en négociation. Elle accompagne les entreprises dans les négociations qu'elles vont mener, elle les forme et elle les aide à construire leur stratégie. Pendant plusieurs années, Sylvia a négocié pour le compte d'acteurs stratégiques dans le secteur de la grande distribution. Et durant cet épisode, elle nous raconte comment elle a pénétré cet univers un peu par hasard avant de décider d'y construire sa carrière. Experte en conflits sociaux et en situations sociales tendues, Sylvia revient sur l'évolution de la nature des conflits ces dernières années. Elle nous livre aussi son analyse sur la question de savoir ce qui peut conduire à un conflit social aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux. Avec des exemples concrets, elle nous explique ce qu'est pour elle une négociation réussie et comment la mener sans jamais, dit-elle, compromettre l'ego de l'autre. Et puis surtout, comment s'y préparer, en étant très clair, en sachant ce sur quoi on est prêt à lâcher, ce qui est important pour nous, pour l'autre. Est-ce qu'on arrive à identifier un intérêt commun à négocier? Quelle est la marge de manœuvre de chacun? Comment aussi analyser le rapport de force et savoir quelle posture adopter si on doit être offensif ou plutôt défensif selon le contexte dans lequel la négociation intervient? Bref, elle nous livre toutes les clés d'une négociation réussie. Enfin, Sylvia revient aussi sur les qualités qu'elle a souvent identifiées chez les négociateurs de talent et sur l'importance du langage corporel et comment exploiter ces signaux. Je vous laisse avec l'interview de Sylvia. Très bonne écoute. Merci beaucoup Sylvia d'être venue à la rencontre de Droit Devant.
Avec plaisir.
Alors Sylvia, donc tu es experte en négociation, tu fais partie d'une agence qui s'appelle ADN, qui est une agence de négociateurs professionnels spécialisée donc dans la négociation complexe et qui accompagne notamment les entreprises dans les négociations qu'elles vont mener au cours de la vie sociale. Alors à travers du conseil en gestion de crise, si j'ai bien compris, et puis l'aide à la construction d'une vision ou d'une stratégie. J'ai lu également te concernant que tu avais pendant plusieurs années négocié pour le compte d'acteurs stratégiques dans le milieu de la grande distribution. Est-ce que tu peux nous dire, Sylvia, comment tu en es arrivée là? Quel est un petit peu ton parcours et ce que tu fais encore plus précisément aujourd'hui?
Avec plaisir. J'ai commencé par du marketing. Après une école d'ingénieur agroalimentaire, j'ai fait une spécialisation en école de commerce. Et j'ai commencé avec à peu près tous les postes marketing, chef de produit, chef de groupe, directrice marketing. Et je voulais faire un an au commercial juste pour l'écrire sur mon CV. Et on m'a donné un poste de grand compte face à la grande distribution. Donc voilà, mes premiers clients, c'est le groupe Carrefour, le groupe Auchan, le groupe Casino. Et donc j'ai découvert cet univers du commerce et de la négociation. C'était très dur au début, je ne m'attendais pas du tout à ce type de relation. Et puis j'ai fini par adorer ça. Donc j'ai plus jamais voulu retourner au marketing et j'ai fait 10 ans de négo face à la grande distribution. Voilà, j'ai travaillé dans plusieurs grands groupes assez connus et j'ai terminé par un poste de directrice commerciale. Et ça fait aujourd'hui plus de 4 ans que j'interviens pour le groupe ADN en tant que négociatrice professionnelle, c'est-à-dire exactement ce que tu dis, soit j'accompagne des négociations, donc on les prépare ensemble, on prépare les rendez-vous, on débriefe des rendez-vous, etc. Soit on forme à la négociation où on peut faire des conférences. Voilà.
D'accord. Très clair. Alors, dans le cadre de ce podcast Droit Devant, je vais à la rencontre d'acteurs du monde du travail. Et ce qui m'intéresse particulièrement, et je pense que tu y as été complètement confronté dans le secteur de la grande distribution, ce sont les situations sociales complexes. Donc, ce sont par exemple typiquement les conflits sociaux, les négociations sociales qui peuvent parfois être tendues sur certains sujets et dans certaines entreprises. Qu'est-ce qui, selon toi, va pouvoir déclencher un conflit social, d'après ton expertise, évidemment, et qu'est-ce qui, à un moment, fait que le dialogue se tend et se bloque ?
C'est vrai qu'on accompagne beaucoup de négociations sociales et aujourd'hui, on voit apparaître des mouvements de plus en plus durs. Ce qui peut générer un conflit, c'est soit une annonce qui peut être faite d'un plan social, bien entendu, mais sinon de coupures budgétaires, de retravail de la flexibilité du temps de travail, etc. Donc, il y a plein de sujets qui peuvent déclencher un mouvement un peu réfractaire en face, des gros changements à venir dans l'entreprise. Et après, la réponse est très variée. On a parfois des élus, des représentants du personnel qui sont là pour co-construire, chercher la meilleure solution pour l'entreprise et bien entendu pour les collaborateurs.
Mmh, d'accord. Et est-ce que tu as vu une forme d'évolution dans la nature des conflits sociaux au fil des années ? Je ne sais pas, par exemple, il y a des années, on voyait beaucoup l'industrie qui pouvait avoir une manière qui était un secteur très dur, avec des mouvements sociaux très, très tendus. Est-ce qu'il y a d'autres formes de mouvements sociaux que tu vois émerger avec la modernisation, la digitalisation? Comment ça se passe, la contestation aujourd'hui?
Exactement, je dirais qu'il y a trois tendances qui sont assez lourdes. Effectivement, en termes de communication, avec les réseaux sociaux, tout peut aller très très vite. Donc un mot dit de travers par un dirigeant dans un séminaire, les médias qui peuvent être très très vite alertés sur des bribes de conversation, etc. Donc la communication va très très vite. Mmh. On a aussi une grande montée en puissance de violence, violence verbale, violence personnelle à l'égard des ressources humaines, des responsables des relations sociales, etc. Une violence qui peut aller très très vite pour un moindre mot, donc c'est des choses à gérer. Et le troisième élément qui est un peu la tendance actuelle des négociations sociales, c'est que les syndicats sont de moins en moins représentatifs.
D'accord. Donc ce relais extrêmement puissant avec les nouveaux moyens de communication, notamment digitaux, ce relais de l'information très puissant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à éteindre dès le début, en fait. Donc, il faut être extrêmement vigilant à toute forme de communication qui peut être relayée sur les réseaux sociaux.
Exactement. Alors, l'éteindre, on ne pourra pas, évidemment, et c'est la liberté d'expression, mais en tout cas, ça engage à beaucoup de vigilance sur une phrase qui peut être dite au hasard, parce qu'on se sent dans un contexte restreint et de confiance, mais on ne sait jamais ce qui peut être filmé. Ça appelle à beaucoup plus de vigilance sur les mots qu'on utilise dans les discours, sur les écrits qu'on fait, sur le cercle de diffusion qu'on a de l'information. D'accord. Donc effectivement, ça appelle à beaucoup plus de vigilance.
Et alors, je suppose que peut-être un petit peu comme moi au cabinet, tu interviens une fois que le conflit est cristallisé, enfin qu'il est là, et peut-être que tu fais aussi une phase de conseil en amont on est sur le point d'adopter, enfin, ou d'entériner une décision qui pourrait générer une forme de contestation au sein du personnel. Donc tu vas peut-être aider aussi à formuler cette annonce, à faire une forme d'assistance dans de la communication d'une situation un peu de crise. Est-ce que c'est ça aussi ton travail, c'est-à-dire d'intervenir en amont d'un conflit ou systématiquement une fois que le conflit existe?
Non, effectivement, on a les deux interventions. En amont, on fait par exemple des formations Donc, d'accord, on va former les populations RH pour préparer leur négo, apprendre à conduire une négociation, utiliser les justes mots, utiliser les réseaux d'influence. Ensuite, on va les former à conclure un accord et aussi à le débriefer. D'accord. Donc, ça, c'est toute la partie formation qui est généralement... Enfin, en tout cas, c'est mieux si elle est en amont. Mm-hmm. Et ensuite, on peut aussi arriver en assistance pour préparer une future négo par rapport à un projet, par exemple, qui doit se mettre en place. J'en sais rien, un projet de flexibilité du temps de travail, un recalcul de l'intéressement, voilà, il y a plein de sujets. Et donc, on va préparer ces négociations en amont, avant qu'elles commencent. D'accord. Et ensuite, on est effectivement dans l'assistance. Mais sans rien te cacher, évidemment, plus on peut prendre ce genre d'échange en amont, plus on peut le préparer en amont. Et évidemment, c'est bien plus simple que si on arrive quand la crise est déjà installée.
D'accord. Oui, évidemment. Et alors, est-ce que, je ne sais pas, tu as en tête, par exemple, une situation dans laquelle tu es intervenu et où on t'a appelé pour débloquer une situation tendue, un moment où tu es parvenu à débloquer ou à apaiser avec ton concours, évidemment, un climat social qui pouvait être tendu. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote à ce sujet ?
Oui, alors heureusement, ça nous arrive quand même régulièrement de réussir avec les équipes qu'on accompagne, de pouvoir retourner des situations qui semblaient vraiment, vraiment très complexes. La majorité des négociations qu'on accompagne chez ADN, elles sont confidentielles, donc on ne peut pas en parler. Je peux peut-être te parler de Bridgestone, de cette usine qui a fermé, tu sais, dans l'Est de la France, et qu'ADN a accompagné à la fois sur la négociation et sur la gestion des émotions et du stress de cette négociation.
D'accord.
Et qui s'est soldée par un accord qui a été signé par les deux parties. Et donc voilà, ça fait partie des négociations qu'on a beaucoup appréciées. Effectivement, on a réussi à trouver un terrain d'entente, à trouver un accord. Et ça nous arrive régulièrement dans plusieurs situations et on essaye d'apporter justement un dénouement ou d'avoir notre regard extérieur pour se dire, voilà, il y avait peut-être cet élément qu'on n'avait pas pris en considération ou cette personne ou un rapport de force qu'on pensait peut-être cuit dès le début et finalement, avec un peu d'analyse, on arrive à le retourner. Donc voilà, c'est ce type d'intervention.
Oui. Alors là, typiquement, sur ce dossier dont tu nous parles, c'était quelque chose où tu étais intervenu en amont sur une sollicitation de la direction, par exemple, ou c'était quelque chose où tu as intervenu postérieurement une fois que le conflit était un peu émergent ?
On a été sollicité dessus, donc après il y a pas mal de choses qui sont confidentielles quand même dans l'intervention sur cette négociation sociale. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive vraiment à collaborer avec les équipes, ça demande de la confiance aussi, puisqu'il faut qu'on rentre dans l'analyse du contexte, qu'ils nous autorisent à avoir notre regard extérieur justement pour apporter un regard sur le réel enjeu de la négociation des deux côtés, hein. Trouver un objectif commun qui soit partagé par les deux parties, préparer son mandat de négociation. Donc voilà, on les emmène à finalement bien préparer en amont cette négociation et pour qu'elle ressemble à une négociation, c'est-à-dire avoir des choses à demander et des choses à offrir en retour.
Oui. Et alors justement, comment tu parlais de confiance là à l'instant, comment tu fais pour... Je me dis que quand tu interviens dans un tableau comme ça où tu ne connais pas les interlocuteurs qui sont face à toi et tu me parles néanmoins de confiance qui est une notion, enfin quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Comment est-ce qu'on fait pour parvenir à susciter la confiance dans un délai imparti qui est finalement assez réduit ? Comment on...
Alors, effectivement, c'est un vrai sujet. Des fois, ça demande un peu de temps pour s'apprivoiser. Je pense que ce qui donne confiance à nos clients, c'est que quand on intervient, on n'est pas des formateurs, on est des opérationnels.
D'accord.
Donc, les experts qui sont présents aujourd'hui chez ADN, c'est des gens qui ont au quotidien les mains dans le cambouis de la négociation, ou bien de la gestion de crise, de la gestion du stress, du leadership, de la vente. Mmh. On n'a que des experts qui sont opérationnels. Et donc, quand ils interviennent, il y a au moins cette crédibilité de se dire, voilà, la personne qui va me donner des conseils, ce n'est pas quelqu'un qui les a lus il y a 20 ans en école de commerce, c'est quelqu'un quelqu'un qui le vit au quotidien. D'accord. Et donc, on sait les difficultés qu'il y a. On sait qu'il y a un facteur qui est colossal en négociation, c'est le facteur humain. Mmh. Et qui fait que si sur tout le papier, tout a l'air hyper simple, ben, ça va peut-être prendre des mois et que ça va être dur, ça va être difficile, ça va être complexe. Mmh. Ça, c'est dû au facteur humain. Et c'est pour ça que cette confiance, elle se gagne aussi par le fait qu'on a fait les mêmes classes en tout cas, et qu'on est bien au quotidien comme eux dans les négociations.
Que vous êtes des opérationnels en réalité, et que vous avez aussi une casquette avec une fonction dans une entreprise, et que ça vous donne une plus-value, une forme de légitimité, c'est ça ?
Exactement, exactement.
Mmh. Ok. Alors, je lis que, enfin, j'ai l'impression en tout cas, je l'ai lu, mais je le ressens aussi au quotidien, que les négociations sont souvent de plus en plus dures, avec des rapports de force qui se durcissent et qui se tendent. Et pour autant, tu parlais à l'instant du fait que pour arriver à une négociation satisfaisante pour tous, il faut bien que chacun y trouve quelque part son compte. C'est encore plus important dans le monde de l'entreprise. Enfin, je pense que ça l'est dans toutes les relations commerciales, mais surtout dans le monde de l'entreprise, ce qui me semble essentiel, c'est que tu t'apprêtes à collaborer pour de longues années avec les interlocuteurs salariés que tu peux avoir en face de toi. Donc, je suppose que le facteur confiance est primordial, parce que si tu radicalises les positions et que tu gagnes à court terme sur une négo en te disant « Ok, j'ai obtenu ce que je veux, mais que néanmoins la confiance est rompue parce que tu as eu les interlocuteurs en face à l'usure », je pense que ce n'est pas forcément un bon deal pour l'avenir en réalité. Finalement, cet accord que tu as arraché au forceps, il n'est pas forcément vécu comme équitable pour tes collaborateurs. Et donc, tu ne t'inscris pas forcément dans le long terme. Est-ce que l'objectif pour toi, c'est toujours de préserver la relation avec l'autre, ou est-ce que, ou des fois, tu interviens pour des clients qui ont une ligne volontairement dure et que, ben, du coup, tu dois, c'est quand même lui qui impulse aussi le mouvement, le client avec lequel tu collabores. Donc, à ce moment-là, tu acceptes les règles du jeu qu'il fixe. Comment ça se passe ?
Alors, la relation, c'est le point central de la négociation. Sans relation, il n'y a pas de négociation. Alors, il y a tout type de négo. Évidemment, on accompagne au quotidien des négociations de prise d'otage. Donc là, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes relations que dans une négociation sociale avec des collaborateurs qu'on va suivre. Donc, la relation est forcément différente. Mais en tout cas, la relation est au cœur de la négociation. Et effectivement, quelle que soit la position qui doit être prise par l'un ou par l'autre, il faut être clair sur ce qui n'est pas négociable. Et des fois, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Il y a peut-être une usine qui va fermer et ce ne sera pas négociable. Par contre, qu'est-ce qui peut être négociable ? C'est l'accompagnement, justement, de cette fermeture. Et donc, je crois que pour préserver la relation avec l'autre, il faut être honnête et transparent sur les choses qui sont négociables et celles qui ne le sont pas. Mmh. Et qu'en aucun cas, il faut abîmer l'ego de l'autre, la personne. Il ne faut pas que les négociations soient de l'interpersonnel, mais on est bien sur deux positions défendues par des syndicats, défendues par l'entreprise, et qui doivent trouver un terrain d'entente en négociant, justement. Mmh. Mais en tout cas, effectivement, on conseille toujours dans nos formations, nos accompagnements, de prendre grand soin de la relation avec l'autre. Mmh. Et c'est pas parce que j'ai une position dure à tenir que je dois dégrader la relation, au contraire.
D'accord. Donc néanmoins, il faut arriver à matérialiser très tôt les choses sur lesquelles tu ne souhaites pas lâcher parce que tu ne peux pas, ou pour tout un tas de raisons, et celles sur lesquelles tu es prêt à faire preuve d'une certaine forme de souplesse.
Exactement.
Mmh. Et c'est quoi pour toi une négociation réussie ?
Ben, je pense qu'à la fin de la négociation, les deux parties ont réellement le sentiment d'avoir obtenu ce qui était juste. D'accord. D'obtenir. Alors, on dit juste parce que ça dépend du contexte dans lequel on se trouve, du rapport de force de chacun, qui a le plus intérêt à l'accord, qui a le moins d'intérêt, qui est le plus pressé. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent interférer dans le rapport de force. Mais à la fin, de se dire, OK, dans la situation dans laquelle on était, je pense que j'ai négocié tout ce que je pouvais négocier, et qu'en face, l'autre aussi a fait quelques concessions vers moi pour que ça ressemble à un accord et que ça ressemble pas à une position ferme d'un côté qui est du positionnisme, c'est-à-dire ma position elle est telle quelle et vous l'acceptez coûte que coûte, ce qui ne se ressemble pas de la négociation. D'accord. Donc voilà, je pense que c'est réussi quand les deux pensent que dans le contexte qui était le leur, ils ont fait au mieux.
Ils sont parvenus au meilleur accord possible. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux maintenant nous donner, pour ceux qui souhaiteraient, qui dans leur quotidien ont des sujets de négociation à initier, est-ce que tu as des conseils pour mener une bonne négociation ?
Alors, bah, petit 1, préparez-la.
Le secret réside dans la préparation.
Bah, comme dans beaucoup de secteurs d'activité qui sont exigeants, hein, mais effectivement, préparer sa négo, ça commence par qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que je ne peux pas négocier, qu'est-ce que je n'accepterai pas de lâcher, qu'est-ce qui est important pour l'autre. Quel est notre objectif à tous les deux dans cette négociation? Est-ce qu'on a tous les deux intérêt à trouver un accord ou pas? Parce que si on essaye de négocier avec quelqu'un qui n'a aucun intérêt à rentrer en négo, ça ne marche pas. Préparer tout ce qu'on doit négocier et la marge de manœuvre que je me donne sur chacun de ces points.
D'accord.
Combien je demande et jusqu'à combien je suis prête à accepter.
D'accord.
Ensuite, analyser un peu mon rapport de force, évidemment. Est-ce que c'est plus moi qui ai intérêt à l'accord ou est-ce que c'est plus l'autre? Et ensuite, on va préparer ces stratégies de négociation, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt en position de force et on peut être un peu offensif sur nos positions. À l'inverse, on n'est pas du tout en position de force, on va être défensif. Donc voilà, bien préparer sa négociation en amont. Être clair sur ce qu'on doit négocier et ensuite avoir une attitude qui soit toujours respectueuse de la relation avec l'autre, de l'ego de l'autre. Ça ne sert à rien d'abîmer l'ego de l'autre en négociation, au contraire, ça dégrade tout. Donc voilà, d'être toujours très souple sur la forme mais très clair sur ce qu'on veut négocier.
D'accord.
Et ce qu'on est prêt aussi à concéder à l'autre, sinon ça ne ressemble pas à une négociation. Et troisième conseil, débriefer.
C'est-à-dire
que quand on a terminé une négo, souvent on se dit bon bah on a fait au mieux et puis j'ai tellement d'autres choses à préparer, de nouvelles négociations, de nouveaux dossiers, etc., etc. Et du coup on oublie de se dire dans la négo que je viens de mener, qu'est-ce que j'ai bien fait, que je peux reproduire, qu'est-ce que j'ai pas si bien fait que ça, que je pourrais faire autrement, qu'est-ce qui m'a manqué. Et c'est une étape qu'on a tendance à zapper un peu parce qu'elle est pas très agréable, ça demande un petit peu d'introspection, mais elle est tellement essentielle
pour la suite.
Mais pour progresser, en fait. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir plein d'expériences si on ne se demande jamais si on a fait réellement les bons choix.
D'accord. Et est-ce que tu arrives à identifier une qualité commune que tu verrais chez tous les interlocuteurs qui négocient avec succès? Enfin, je ne sais pas, par exemple, spontanément, je pense à l'écoute. Est-ce que c'est vraiment une qualité qu'il faut développer quand on essaye de faire une négociation intelligente et aboutie, ou je pense à ça de façon spontanée, mais est-ce que tu as d'autres qualités que tu identifies souvent chez les négociateurs qui parviennent à de belles négociations?
Il y a plusieurs qualités, tu as raison de revenir là-dessus. Donc il y a plusieurs qualités qui peuvent être pour un négociateur, par exemple l'empathie, c'est-à-dire la capacité à comprendre l'émotion de l'autre mais sans la ressentir soi-même. Ça peut être de l'appétence au conflit. Par exemple, selon si les négociations vont être très conflictuelles en face de moi, il vaut mieux que je sois un petit peu appétente au conflit pour les mener. Ça peut être effectivement une capacité d'écoute. Ça peut être une maîtrise émotionnelle, maîtriser ses propres émotions, gérer son stress.
D'accord.
Ça, c'est des éléments qui peuvent être importants. Après, il peut y avoir l'agilité. Quand ça ne marche pas comme prévu, est-ce que je me sens à l'aise
trouver
avec
un plan B immédiatement.
Exactement. Après, ça peut être de la résilience pour dépasser des situations peut-être complexes qu'on a pu vivre et pouvoir progresser par la suite. Donc voilà, il y a plusieurs critères qui peuvent être importants en négociation. J'ai envie de dire, ça dépend de la négo qu'on a en face de soi. Par exemple, l'appétence au conflit, la gestion du stress et la maîtrise émotionnelle sont moins importantes si face à soi, on a une négociatrice ou un négociateur qui est très doux, coopératif, bonne foi.
Et puis averse à toute forme de dureté ou de radicalité.
Exactement. Et que la négociation est plutôt équilibrée. Je n'ai pas besoin d'avoir une très, très forte appétence au conflit, une très forte maîtrise de mes émotions.
D'accord.
À l'inverse, si on est sur des conflits assez durs, avec des personnalités virulentes face à soi, des mauvaises foi, des agressifs, etc., etc., il vaut mieux avoir développé ça.
D'accord. Donc, il faut pouvoir, savoir en faire preuve, tout en ayant aussi l'intelligence humaine de s'adapter à l'interlocuteur qu'on aurait face à soi.
Exactement.
Très clair. Est-ce que, j'ai vu que vous dispensiez aussi des formations sur le langage corporel, sur la détection du mensonge, ce qui m'a semblé super intéressant. Alors, je ne sais pas exactement quoi ça consiste. J'ai vu que vous, rapidement, que tu évoquais l'analyse des postures, de l'expression faciale. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous utilisez quotidiennement dans les négociations que vous menez et qui a une forme de, enfin, qui a de la pertinence, j'imagine, puisque c'est quelque chose dont vous avez fait une arme. Mais comment, est-ce que tu peux nous dire typiquement quels sont les, ce que tu prends en considération pour
Bien sûr.
Comme attitude physique.
Bien
si
sûr, bien sûr. Ben on a tout ce qui est paraverbal et non-verbal qui est vraiment clé en négociation, surtout quand on est sur des négociations tendues, à fort enjeu. Les personnes en face veulent parfois nous cacher qu'elles sont dans un état de stress ou de colère. Donc elles nous racontent que tout va bien, qu'on est proche de trouver un accord alors qu'en fait pas du tout. Ou à l'inverse, elles font croire qu'elles sont dans une colère pas possible pendant 20 minutes et en fait c'est juste simulé et il n'y a pas de, de raison de s'inquiéter plus que ça. Et donc effectivement, on forme nos participants à ça, c'est-à-dire à réussir à détecter une émotion. Il y a cette émotion universelle. Et donc, je vais réussir à détecter cette émotion, surtout quand on veut me la cacher et qu'elle devient une micro-expression.
D'accord.
C'est-à-dire que je te dis que tout va bien, on va bientôt signer un accord, tu es vraiment l'entreprise que j'ai sélectionnée, etc. Et pendant que je te parle, j'ai plein de micro-expressions de colère qui font que, intuitivement d'ailleurs, si tu n'es pas formé, tu pourrais te dire en sortant de là, c'est bizarre, je ne l'ai pas senti. Et si tu es formé, du coup, tu détecteras.
Si tu écoutes tes émotions, tu comprends que c'est parce qu'il y a un frein ou une opposition qui fait qu'il n'est pas serein dans la négociation qu'il mène, en fait.
Exactement.
C'est ça,
ça nous est tous arrivé, hein, sans être particulièrement formé. Quelqu'un nous parle peut-être d'une histoire un peu triste et on sort de là en disant, écoute, je ne sais pas, mais je ne suis pas rentrée dans son histoire. Mais peut-être que cette tristesse était simulée et qu'il n'a eu aucune micro-expression de tristesse réelle pendant 30 minutes de speech sur son histoire.
D'accord.
Donc, c'est probablement simulé. Ouais.
D'accord, ok. Et alors, appliqué à la négociation, ça pourrait être quoi que tu identifierais, par exemple, un tic de langage ou une expression faciale, le fait de ne pas sentir l'interlocuteur à l'aise dans la négociation, ou en tout cas de peut-être d'identifier une forme de double discours ou une objection que tu ressens, elle s'appuie concrètement sur quoi, facialement ou dans la posture, en fait?
Alors, il y a plein de choses dans le paraverbal, dans le non-verbal. Donc, ça peut être une respiration qui s'accélère, quelqu'un qui rougit, des réponses physiologiques qui sont connues, tu vois, du stress, quelqu'un qui s'agite sur sa chaise, etc. Les mots, bien sûr, hein, les mots, mais tout ce qui est autour des mots. Après, ça peut être la tonalité de la voix, le temps que tu mets pour me répondre. Ça peut être parler trop fort alors que ce n'est pas nécessaire. Ne plus cligner des yeux, ça veut dire qu'on est quand même rentrer en stress. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on éveille nos participants pour qu'ils se rendent compte que, notamment quand je vais t'annoncer pour la première fois le prix de mon devis, je vais certainement pas baisser les yeux pour prendre des notes sur ta réaction, je vais te regarder droit devant pour voir si ça suscite chez toi une micro-expression de surprise, de colère, ou si ça a l'air d'être manifeste, ou même de joie, parce que tu t'attendais à beaucoup plus cher que ce que je t'annonce. Donc voilà, du coup, effectivement, on utilise tout le temps la posture, les émotions de l'autre, le paraverbal, le non-verbal dans nos analyses.
D'accord, bon. Et je vois aussi régulièrement des sujets qui passent sur la négociation au féminin, comme si il existait des spécificités dans la négociation menée ou avec ou par des femmes, je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose que tu remarques, en fait, une forme de particularité qui résulte des négociations menées avec des femmes ou par des femmes?
Alors exactement, on s'est dit l'année dernière qu'on allait faire un petit webinaire gratuit sur LinkedIn où des femmes partagent leurs expériences de négo et moi j'essaie de les décrypter avec l'œil de la technicienne. Et on l'a juste posté comme ça gratuitement sur LinkedIn, 1000 inscrites au premier webinaire. Donc
d'accord,
on s'est dit, il y a
grand
un vrai
intérêt.
Sujet. Il y a un vrai sujet. Donc aujourd'hui, on a même un module qui s'appelle « Négocier au féminin ». On a sorti un ouvrage.
D'accord.
Pour réveiller la négociatrice qui est en vous. Et effectivement, on continue du coup nos webinars avec notre fondation ADN Women qui est là pour donner aux femmes des outils, des méthodes, des postures pour oser négocier.
D'accord.
Préparer ses négos et oser négocier. Donc je dirais, la négociation n'est pas genrée.
D'accord.
Mais son utilisation l'est.
D'accord.
C'est-à-dire que les techniques de négo, pour un homme ou pour une femme, sont
les mêmes. Elles sont universelles.
Voilà, elles sont à peu près les mêmes, évidemment. Par contre, la capacité à oser les utiliser, à être appétente au conflit, à être très ferme sur son non négociable, à lâcher un peu deux, trois syndromes qui nous collent au basket, comme l'imposture, la bonne élève, la gentille, la femme fait des compromis, etc.
D'accord.
Ça, c'est plutôt genré. Et donc, on essaye de donner des outils aux femmes pour dépasser tout ça.
Super intéressant, d'accord. Et alors, ça recueille toujours autant de succès, ces négociations?
Mais oui, exactement. Le prochain
et la
module,
prochaine
La prochaine, c'est les 7 et 8 mars chez ADN. Et on va continuer nos podcasts, enfin nos webinars. Donc maintenant, ils sont en podcast, ce qu'on a déjà fait, qui s'appelle Les Négociatrices.
D'accord.
Et là, notre prochaine étape, c'est de créer une promotion avec des présidentes d'associations pour défendre les femmes,
d'accord,
les droits des femmes, des femmes battues, des femmes qui veulent créer leur boîte, etc.
Mm-hmm.
Et bien sûr, gratuitement, on va les former à la négociation.
D'accord.
Pour qu'elles obtiennent plus de subventions, de prêts, d'aide, de temps, d'équipe, etc. etc.
Ok. Bon, donc, écoute, je mettrai les liens alors dans la diffusion du podcast de toutes ces initiatives que vous avez. Et qui se... Donc, ça commence quand alors les réunions, cas ce groupe de travail.
Cette promo,
ouais.
Écoute, on est en train de construire l'équipe, comme
d'accord.
Ça après on va leur donner les premières dates pour les former, mais là ça va être au printemps, donc on est en train de finaliser tout ça.
D'accord, ok.
Et les podcasts, on en a, les webinars, on en a régulièrement sur ADN Women, où des femmes qui ont des parcours incroyables viennent partager leur négo. Donc on a une négociatrice du RAID, une patronne de gendarmerie, la DG des bijoux Fred, on a eu une membre du COMEX de la SNCF, voilà, il y a tout un tas, une architecte, une entrepreneuse, voilà, et on a eu tout un tas de femmes qui, et je trouve que c'est toujours touchant avec ces groupes de femmes, partagent sans pudeur.
D'accord.
Et je ne voudrais pas faire des généralités, mais je trouve quand même que souvent les femmes entre elles sont capables de se lâcher sans pudeur leurs difficultés. Mmh. Et du coup, ça rend des groupes très touchants parce qu'on est très vite sur... on joue carte sur table.
Ok. Et puis peut-être que devant un public féminin, c'est encore plus facile d'assumer sa vulnérabilité finalement.
Exactement. On n'a pas besoin de faire bonne figure, on est entre nous.
Bon. Et ben, merci beaucoup Sylvia pour cet échange super constructif. Et puis je mettrai évidemment tous les liens de notre épisode dans les commentaires du podcast. Merci.
Merci beaucoup.